Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'un nouveau partenaire. Il s'agit de l'Iron Lakes, un des plus beaux triathlons de Belgique qui vient d'ailleurs d'être nommé meilleure organisation de l'année par la Fédération Nationale. Cet événement a lieu tous les ans dans le plus grand lac du pays, les lacs de l'Odeur, un endroit magique. Mais pourquoi est-il si spécial? Déjà, c'est un des rares triathlons dans la région qui couvre toutes les distances. Et quand je dis toute la distance, c'est du sprint au full, en passant par le déo et le semi. Il y a même des épreuves mon premier triathlon pour ceux qui voudraient s'initier, ou alors des épreuves en relais pour faire péter les chronos. Et aussi des courses spéciales pour les enfants. L'organisation se veut irréprochable, et pour y avoir été, je vous le confirme, c'est un événement hyper quali avec une ambiance de folie, comme on sait le faire en Belgique. Un autre gros avantage, c'est que ça se passe sur 2 jours et que l'événement est prévu pour accueillir toute la famille, puisqu'il prévoit aussi des activités hors course pour les enfants. Et comme je vous le disais, le cadre est juste magnifique pour y passer quelques jours de vacances. Cerise sur le gâteau, les championnats de Belgique y prennent leur quartier sur la distance semi. Bref, je ne peux que vous le recommander. Moi, j'y serai en tout cas, ça c'est sûr. Pour les inscriptions, ça se passe sur www.ironlakes.be, ironlakes.be. Je ne vous fais pas plus attendre, place à l'épisode.
Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier. À 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes avec moi sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, Olivier de Scooter fait partie de l'équipe. Salut Olivier.
Salut Armano.
Aujourd'hui, je suis très heureux, comme à chaque fois, que c'est plutôt une voix féminine qui est derrière le micro. Notre invitée est une femme, je veux parler de Hélène Guillaume. Bonjour Hélène.
Bonjour Armano, bonjour Olivier.
Hélène, nous avons une tradition dans ce podcast, très simple, on laisse à notre invitée, et en l'occurrence notre invitée et eux, le soin de se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Hélène? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis, quelle est ta relation avec le sport?
Donc j'ai 35 ans, j'habite au Portugal maintenant pour pouvoir surfer et j'ai monté une boîte qui s'appelle Wild AI. Donc ce qu'on fait, c'est de la recherche sur le corps de la femme, parce qu'aujourd'hui encore 80% de la recherche est uniquement faite sur des hommes. Dans le sport, c'est encore pire. Alors, il y a seulement entre 5 et 6% du budget qui vont pour les femmes. Or, notre corps est vraiment très différent des hommes. Donc, ce que nous, on fait chez Wild AI, c'est de la recherche sur le corps de la femme et on transfère cette recherche dans une app qui est pour aider les femmes à s'entraîner, se nourrir et récupérer en fonction de leur physiologie, si elles ont un cycle menstruel, si elles utilisent un contraceptif, si elles sont en ménopause, etc. Donc c'est une app. Et la raison pour laquelle j'ai créé la boîte, c'est qu'à l'origine, je suis data scientist. Donc je travaille avec beaucoup de données, mais dans le milieu plutôt de la finance. Et en parallèle de ça, je fais toujours pas mal de sport. Et j'essaie de comprendre, est-ce qu'il y a des corrélations entre... par exemple, si je faisais du vélo avec des hommes, un jour, je pouvais... aller grimper aussi bien qu'eux, le lendemain je suis flat out, et donc j'essaie de comprendre est-ce qu'il y a une raison, est-ce que mon corps est différent, est-ce que c'est juste obscur comme raisonnement, et en fait il y a des corrélations, la bonne nouvelle c'est que en sport en particulier, être une femme c'est plutôt un désavantage. Or, la raison pour laquelle on pense que c'est un désavantage, c'est plus parce qu'on comprend pas le corps de la femme et la capacité du corps de la femme que vraiment le fait qu'on soit désavantagé. Oui, on est moins rapide et moins forte sur le court terme, mais quand on parle d'endurance, etc., on peut être plus rapide, plus adaptive, etc. Donc ça, c'est le background de la boîte. Et en termes de sport, je fais pas mal de sport. Je faisais beaucoup de natation de compétition et après je faisais du rugby beaucoup. Et après, traditionnellement, comme beaucoup de jeunes qui faisaient du sport d'équipe, quand j'ai commencé à travailler, je me suis mise au triathlon. D'abord, ultra trail, donc des courses dans la montagne de 100 km et après triathlon. Et beaucoup de vélo, j'ai toujours fait beaucoup de natation. Et maintenant, mon sport, vraiment, c'est le surf. Voilà.
Tu nous racontais justement, off, que tu étais au Portugal en ce moment, donc je comprends un petit peu mieux pourquoi le Portugal, ouais. si, euh, si ton truc c'est le surf, effectivement, ça a du sens.
Exactement. Je trouve que c'est un des sports les plus difficiles à commencer et à masteriser, et donc être sur place, ça permet de faire plus de surf plus régulièrement.
Je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai jamais réussi à m'y mettre. T'as beau faire une après-midi, une journée de surf, ça rentre pas. Donc effectivement, si tu vis pas à côté de la plage, ouais, c'est compliqué. Ouais.
Je ne peux que confirmer, parce que moi déjà j'ai un problème avec l'équilibre, donc je suis jamais monté sur une planche de surf, sauf quand on enlève l'aileron et qu'elle est posée sur le sable. Je sens que le sujet va être bien intéressant. Pour reboucler sur ce que tu disais, on avait déjà eu la chance de recevoir Juliana Antero, qui est chercheuse à l'INSEP et qui aborde aussi le sujet de la différence, enfin de la recherche sur la femme, et notamment dans le sport. Alors pour ceux qui voudraient aller réécouter, c'était les séries de podcasts quotidiens qui vont du 249 au 251. Je voudrais un petit peu plus qu'on revienne sur toi, Hélène, vraiment pour le début de ce podcast, parce que tu nous as fait la big picture. Tu nous dis que le sport, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi, ça a toujours presque fait partie de ta vie. D'aussi loin que tu te souviennes, quelle était ta première relation avec le sport?
Je faisais beaucoup de ski aussi en grandissant. Je pense... Peut-être en skiant et en nageant, et par tout temps on allait skier, donc j'étais avec ma sœur, ils nous déposaient, on skiait assez tard dans l'année, et souvent il pleuvait et on était trempés, donc on skiait quand même. Donc je pense persévérance et résilience dans l'acquisition de skills pour pouvoir devenir meilleur. Et après, en natation, je me souviens nager avec mon père, avec un tuba et des palmes, et on nageait des heures dans la mer en train de regarder des poissons, etc. Mais de façon assez régulière. Donc, je sais pas, des beaux souvenirs en pleine nature et de pouvoir se pousser, se surpasser, etc., même en étant très jeune. Et ce contact avec la nature et avec d'autres personnes.
Je comprends entre les lignes quand même que tu viens d'une famille de sportifs.
Sportifs à différents niveaux, mais tout le monde est assez actif, ouais.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es spécialisé un petit peu plus dans un sport que dans un autre? Tu nous as dit que t'as commencé par la natation. Qu'est-ce qui a fait que justement t'as plutôt choisi la natation?
C'est une bonne question. J'habitais à cette époque-là, quand on a commencé à faire plus, j'étais à Paris. Donc je pense que c'est aussi la facilité d'être dans une ville, c'est un sport qui est facile pour mes parents de nous déposer à la piscine. Je faisais des sports martiaux aussi, des arts martiaux, mais je pense que la natation, c'était quelque chose que je faisais avec ma grande sœur, et ça marchait bien, et j'ai toujours adoré l'eau. Et en ville, ça marche bien, et après, en été, c'est quelque chose qui est... Enfin, tu peux être en pleine nature et te développer dedans, donc... Je pense que c'est lié à là où je vivais, j'imagine, parce que je pense que si je vivais plus dans la montagne ou si je vivais plus près de la mer ou des choses comme ça, je pense que j'aurais des sports différents. Et maintenant, j'habite près de la mer parce que j'ai envie d'être plus dans la nature, faire des sports plus axés outdoors et nature que... en gym, qui est plus genre adapté à des sports de... Enfin, quand t'habites en ville.
Tu nous as dit que t'as commencé ta carrière en tant que data scientist. Est-ce que, justement, dans le début de ta carrière, il y avait toujours beaucoup de place pour le sport?
Je pense que pour moi, c'était deux choses complètement différentes. Une, c'était le sport, et j'adorais le sport. Et pour moi, c'est toujours une façon d'être social, d'avoir des amis, etc. Et de l'autre côté, c'était ma carrière, etc. Et puis, quand on grandit, on dit, pour avoir ta carrière... Si tu regardes à ce qui te passionne, etc., trouve ta passion et tu trouveras ta voie professionnelle. Mais je ne pouvais absolument pas voir de lien entre aller faire de l'escalade dans la nature ou aller skier et avoir une carrière professionnelle. Je pense que j'ai été éduquée assez traditionnellement, disons, je suis belge, je ne sais pas si Olivier t'es belge aussi, mais je suis belge, française, polonaise. Et dans le parcours un peu traditionnel en France, les carrières d'exception, ce qu'on nous pousse vraiment à faire, c'est soit être ingénieur, soit finance, plutôt marketing, etc., mais pas vraiment dans le sport.
Soit médecine.
Soit médecine, soit avocat, des choses comme ça, mais pas vraiment dans le sport. Pour moi, c'était complètement dissocié l'un de l'autre. Et c'est avec le temps que j'ai pu voir qu'en fait, il y avait une énorme opportunité dans le sport. Mais quand j'ai commencé la boîte, c'était pas du tout clair que ce serait une vraie opportunité. Et d'ailleurs, j'ai commencé la boîte dans un programme qui s'appelle Entrepreneur First. Et ils essayaient vraiment de me pousser d'être plutôt... de faire quelque chose dans le monde du hedge fund plutôt, qui était mon background, que dans le sport, parce qu'ils ne voyaient vraiment pas l'opportunité dans le sport, surtout dans le sport féminin.
Eh oui, non, c'est clair, bien sûr. Aujourd'hui, il suffit de regarder toutes les grandes licornes et autres. On parle beaucoup de fintech, on parle de Web3, on parle de plein de choses, mais c'est vrai que le sport, ça reste un petit peu... quelque chose qui s'est pas énormément évolué finalement, en tout cas jusqu'à il y a peu. Mais je pense que c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que le sport devient aussi quelque chose très présent dans la vie de tout le monde, en fait. Ça se démocratise énormément. Et aujourd'hui, presque tout le monde fait un peu de sport, quoi. Mais il y a 10-20 ans, c'était pas le cas.
Ouais, exactement. Et je pense que notre boîte, elle est très axée aux États-Unis, parce que en termes de sport, tu vois, les gyms, etc., ça a beaucoup commencé aux États-Unis. Et maintenant, très clairement, ça se démocratise de plus en plus. Mais aussi, de façon normale, dans notre vie, on devrait inclure le sport pour n'importe qui, parce que c'est bien dormir, bien s'hydrater, bien manger et être actif. C'est un peu les bases des piliers de longévité et de santé. Donc même si ce n'est pas des sports extrêmes, même si ce n'est pas faire des Ironman et choses comme ça, être actif et, et même de se sentir bien dans son corps, je pense que c'est important. Ça reste pour des classes plus privilégiées de pouvoir se focus sur des choses comme ça, mais c'est de plus en plus mainstream. Et pour les compagnies, les startups qui ne sont pas fintech, etc., il y a quand même énormément de boîtes maintenant dans le sport qui sont des grands succès, genre Strava, iFit, Sweat, il y a plein de Peloton, Whoop, Oura Ring, etc. Donc maintenant, il y a quand même cette énorme émergence de tout ce qui est sports tech qui fonctionne.
Pour revenir un petit peu à toi et à ton expérience sportive, tu nous as dit que tu avais découvert le triathlon. Alors, j'ai bien aimé la relation que tu as faite entre commencer une carrière professionnelle et venir aussi du sport collectif, et puis tu as dérivé vers le triathlon. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu voulais dire par là?
Je trouve que c'est un schéma qui est assez répétitif dans mes amis. On faisait plutôt des sports collectifs plus jeunes, je pense. Et en commençant à travailler, on ne peut pas aller à l'entraînement le mardi soir, on ne peut pas aller le samedi aux compétitions, etc. Et j'ai commencé à faire des sports plus individuels. Donc je nageais, je détestais courir à l'époque. J'ai commencé à courir et je vivais à Hong Kong à ce moment-là. Et avec mon meilleur ami, on s'est fait des plans d'entraînement, des plans de course. Et on a vu une course de 100 km. Donc on s'est inscrit dessus et on n'avait jamais fait de... J'avais jamais couru une marathon, j'avais jamais couru de longue distance avant ça. Mais on était très fit et on vivait ensemble et on faisait beaucoup de sport. Et on était suffisamment jeunes pour sortir, faire la fête, travailler et faire du sport en même temps. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de courses à ce moment-là. Et là, j'ai adoré le trail. C'est un sport, je trouve, qui est déjà très proche de la nature. À cette époque-là, on n'avait aucune idée de tout ce qui était la technicité des produits pour faire du trail. Donc, on n'avait pas de montre, on n'avait pas de chaussures de trail, on n'avait pas de sac à dos, de camelback, etc. Mais on partait avec un sac à dos, avec une tente dedans, et on courait, et puis on dormait sur la plage. Et puis on recommençait à courir, on n'avait aucun processus de nutritionnel ou processus d'entraînement spécifique ni rien. Et c'est comme ça qu'on s'entraînait pour courir 100 km. Mais c'était génial. On courait jusqu'à la tombée de la nuit, on dormait sur la plage et après on continuait de courir. Et donc là-dedans, je suis tombée dans la course. Et après ça, pour faire du triathlon, il ne me manquait plus que le vélo. Et j'ai commencé à faire du vélo. Et puis commencer à adorer le triathlon. Du côté, je pense, le côté technique et tout le côté performance, etc., est très intéressant. Parce que tu peux voir ta progression. Tu as tout le côté course aussi qui est assez excitant avec les différentes personnes. Alors, on organise tes trips et faire des courses ensemble, etc. L'adrénaline de la course, c'est hyper excitant. C'est complètement opposé au trail, je trouve. Mais c'est différemment intéressant.
T'as un côté un peu plus geek dans le triathlon que tu retrouves, tu retrouves moins dans le trail, je pense. Le trail, t'as plus le côté découverte, les beaux paysages, etc.
T'as les deux extrêmes dans le trail. T'as soit les puristes qui vont avoir pas de montre, pas de chaussures, etc. Et ceux qui sont ultra avec des montres et avec les meilleures technicités, etc. Mais c'est vrai que le trail, ça reste quand même très nature. La raison pour laquelle on fait du trail, c'est parce que t'es au milieu de nulle part et que t'as pas de voiture et que t'as pas de route de macadam, etc. Alors que le triathlon, c'est macadam, hyper performance, hyper compétitif. Le profil, c'est très hedge fund manager, très compétitif. Les meilleurs vélos, genre des vélos qui coûtent 10 000 euros. Pour quelqu'un qui ne sait pas particulièrement faire du vélo. Donc ouais, c'est très différent comme environnement.
Parce que du coup, tu as commencé, si je ne me trompe pas, tu as commencé ta carrière pro justement dans le monde de la finance. Ouais. Ça te convenait bien, c'est à ce moment-là que tu as commencé le triathlon?
Ouais, et ouais, j'adorais. Et j'ai rencontré pas mal de gens aussi dans ce monde-là en faisant du vélo, en faisant surtout du vélo, parce que je pense que l'entraînement vélo en ville, il est très propice à faire des rencontres, etc., plus que la course ou la natation. Et après, pour monter ma boîte, quand j'ai levé de l'argent, j'ai pas mal de mes investisseurs qui étaient des gens avec qui je faisais du sport.
Ça, c'est sûr, ça crée des liens. Et puis, je pense, après, bon, t'as aussi un business qui est quand même assez spécifique.
Ouais.
Et si t'es pas toi-même dans le sport, tu comprends peut-être moins bien aussi les enjeux. Enfin, tu vas nous raconter un petit peu plus l'histoire aussi de ta boîte. Mais pour revenir du coup un peu sur tes premières courses en triathlon, ça s'est passé comment? T'as commencé sur quelle distance? Tu t'es entraîné avec un coach, pas de coach? Comment ça s'est passé?
J'ai commencé parce que j'étais en école de commerce à Nantes et l'école de commerce co-organisait les championnats de France de triathlon à la Baule. Et donc j'ai commencé le triathlon en étant volontaire. Sur les routes de vélo, etc. C'est là où j'ai vu la première fois du triathlon. Et après, j'ai commencé en faisant un tri-relais. Moi, je faisais la natation.
Ça t'a tout de suite donné envie quand t'étais bénévole?
Est-ce que ça m'a tout de suite donné envie? Ouais, c'était assez marrant. C'était un week-end avec plein de jeunes qui étaient bénévoles, etc. C'était assez marrant.
Finalement, ça permet de reboucler sur l'épisode avec Florian Badou où il nous disait que le meilleur moyen de devenir triathlète, c'est d'aller en voir un, soit d'être bénévole, soit juste de regarder les copains qui vont faire.
Ça semble quand même assez difficile quand t'es pas dedans. Ça semble assez, la barrière a l'air assez dure à entrer, je trouve. En essayant de me remémorer à l'époque, même les vélos, je faisais du vélo, mais j'avais pas de vélo de route ni rien. Donc je pense à l'époque, la barrière d'entrée avait l'air un peu difficile. À ces trois disciplines, etc. Je pense que le tri-relais, c'est une bonne façon de rentrer dedans. Mais la majorité des personnes sont... La majorité des personnes soit des bons coureurs, soit des bons cyclistes, mais en général, des mauvais nageurs. Profil de triathlète typique.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hein. Surtout dans le triathlon court, les bons nageurs tirent souvent leur épingle du jeu parce que déjà ils sortent devant, ils sortent moins fatigués et ça permet souvent de prendre un bon paquet. Alors je parle encore une fois des triathlons courte distance hein, où le drafting est autorisé.
Je pense qu'on vous parlait pas de la même chose. Il me semble qu'Hélène disait plutôt la plupart des triathlètes qui débutent en général ils galèrent plus en natation, c'est ça que tu voulais dire, non?
Qui débutent mais aussi plus avancés. J'ai plein d'amis qui sont des très très bons cyclistes et des très bons coureurs. Mais à chaque fois, ils disent mon point faible, c'est la natation. Et j'ai l'impression d'entendre ça de la majorité des triathlètes que je connais.
Oui, voilà, c'est le sport le plus technique des trois. Donc ouais. ça, c'est clair. Mais après, je suis d'accord avec toi, Herman, aussi, dans le sens où tu regardes le top mondial. C'est vrai que souvent, les mecs qui n'étaient pas des bons nageurs, à la base, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc c'est vrai qu'en général...
Ouais, oui, ils finissent sur du long ou du très long. Ceux qui étaient d'excellents nageurs, ils restent sur du court.
Et encore, parce que comme c'est... Tu vois, dans le sens où si t'es pas un très bon nageur de base, t'as peu de chances d'arriver dans le top mondial. Enfin, tu vois, si t'as déjà la technique, je veux dire, tu peux devenir un bon cycliste plus tard, tu peux devenir un bon coureur plus tard, tu peux plus difficilement devenir un bon nageur tard.
Je pense aussi les gens ont pas cette compréhension que la natation c'est tellement technique et donc mettre pas le temps et l'effort d'avoir vraiment du coaching en natation alors que comme tu dis c'est le sport le plus technique et donc c'est assez difficile de s'améliorer mais c'est plus difficile à avoir des rewards quand tu fais la natation, quand tu t'entraînes en natation je trouve, alors qu'en vélo assez rapidement tu t'améliores, assez rapidement tu peux commencer à faire des à grimper etc.
C'est plus subtil disons qu'effectivement en vélo ou en course à pied tu vois tout de suite soit que les distances se rallongent pour une même durée d'entraînement, soit que les entraînements passent plus facilement. En natation ça va être une question de quelques dizaines de secondes. C'est vrai que quand tu commences à nager, si tu fais 2 minutes au 100 mètres et puis qu'un jour tu fais 1 minute 45, tu t'en rends pas forcément compte parce qu'il t'aura fallu des semaines, des mois, des années pour arriver à ça. Si tu faisais un drop comme on pourrait en avoir en vélo ou en course à pied où un jour tu nages 2 minutes au 100 mètres et puis 3 semaines après tu fais 1:30, là tu t'en rendrais certainement beaucoup plus facilement de compte, je pense.
Donc tu découvres en tant que bénévole, tu fais tes premiers triathlons court distance.
Je sais plus si j'ai fait un sprint, après triathlon olympique, une distance olympique à Londres, et je crois que j'ai fait quelques olympiques. Sprint, je trouvais ça un peu se déplacer pour faire un sprint, je trouvais ça un peu ennuyant. Et pour un olympique aussi, donc je les faisais quand ils étaient proches.
Donc t'es parti sur les longues distances très rapidement.
Ouais, exactement. Et aussi, je pense, je suis pas très rapide. Je suis pas rapide à la course, je suis pas très rapide en vélo, etc. Donc le plus long, effectivement, ça me donne plus d'avantages compétitifs. Et puis pour faire, je trouve que c'est une belle façon de découvrir une région, de faire un voyage, etc. Et donc pour faire, ouais, si c'est un olympique, c'est pas très excitant en termes de préparation, etc. Et après, mais j'ai fait qu'un seul Alpha Ironman, j'ai fait Aix-en-Provence.
Qui revient quand même très 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 souvent dans la bouche des francophones, hein. Aix-en-Provence, que ce soit les Français, les Belges, ça reste quand même une référence dans le 73.
Et Hélène, juste pour revenir un petit peu, parce que alors, tu nous as parlé de Hong Kong, Londres, là tu vis au Portugal, sur LinkedIn, je crois que ta boîte est basée aux États-Unis. Mais t'es franco-belge polonaise. tu raconte-nous un petit peu ton parcours là, ouais. Rapidement.
Mon père est belgo-français, ma mère est polonaise. Je suis née en Belgique et après on a déménagé au Japon quand j'étais petite. Ensuite on est retrouvés en Belgique et puis en France, à Paris. Et après ça, en tant qu'adulte, j'étais à Hong Kong, Pérou, Angleterre, Italie, États-Unis. Et avant la pandémie, j'étais à moitié entre Londres et à moitié entre San Francisco. Et après, après les 10 dernières années, j'étais à Londres et maintenant au Portugal. La raison pour laquelle je suis au Portugal, c'est parce que ma boîte est remote et que je veux vraiment m'améliorer en surf. Donc comme ça, je peux aller surfer tous les jours.
Trop bien.
Et alors tous ces déplacements, c'est quoi ? C'est une question d'opportunité ? C'est pour le boulot parce que ton employeur t'envoyait à droite à gauche ? Ou c'est juste que t'as la bougeotte, tu peux pas rester quelques temps sans aller découvrir d'autres contrées ?
Je pense que mes parents ont ça déjà, leurs parents aussi, et donc je pense que c'est transgénérationnel.
C'est dans le sang.
Ouais.
Et alors justement, par rapport au triathlon, t'en as fait sur les 5 continents. Après Aix, qu'est-ce qui s'est passé ?
Je pense que... À Aix, je faisais du vélo et en trail, etc. Tu parles beaucoup avec tes voisins, tu t'encourages, etc. Moi, ça m'aide aussi. Et je me souviens à vélo à Aix, j'encourageais les mecs qui me dépassaient. Ils me regardaient, ils étaient très surpris de pourquoi ils me parlent. Et je trouve que le côté hyper compétitif du triathlon, même si j'aime bien le côté performance, etc., mais le côté hyper compétitif, on est tous des amateurs, genre il faut se relaxer un peu, je pense. Et il n'y a pas ce côté un peu entraide et on est dans la nature et c'est cool qu'il y a dans le trail. Donc il y a plein de côtés du triathlon que j'aime. J'adore les trois sports du triathlon. Et bien sûr, vu que j'ai fait un Alpha Ironman, dans ma tête j'ai envie de faire un Ironman juste pour l'avoir fait. Mais ce qui m'attire plus, c'est plus les triathlons hors piste, genre plus trail triathlon.
Off-road, etc.
Ouais,
et autres.
Juste par la nature, là où c'est, etc. J'avais commencé à m'entraîner pour faire du swimrun, parce que je trouve que le concept du swimrun est très marrant.
C'est excellent.
C'est par deux, c'est vraiment nature, etc. Donc je trouvais ça assez sympa. On s'était inscrit à un qui a été finalement annulé, mais on a quand même essayé de le faire. Et il a été annulé parce que c'était trop dangereux, et donc on a quand même essayé de le faire, mais c'était une mauvaise idée. Et voilà, après ça, j'ai fait plutôt du trail. Et là, ça fait la dernière course que j'ai faite, je crois que c'était pendant la pandémie, il y avait une petite fenêtre ouverte. J'étais en Angleterre, dans les Peak District, et faire un trail là-bas. C'est la dernière course que j'ai faite.
Si tu cherches une course pour fin d'année, moi je suis engagé sur le swimrun des Gorges de la Loire en septembre. Mon binôme est blessé, donc il ne prendra pas le départ et je ne trouve pas de binôme. Donc c'est la version ultra, si ça t'intéresse, on peut se retrouver là-bas.
C'est quoi la distance ?
35 de course à pied et 12 de natation.
Ah, ça va.
Bon, on restera en contact. D'où t'es venue l'idée de créer cette boîte World AI ? Est-ce que c'est ta pratique du sport ? Est-ce que c'est ta condition de femme dans le sport ? Quel a été le phénomène déclencheur ?
Je pense que c'est un, le sport, et deux, data science. Donc en utilisant beaucoup de données, voilà, j'ai une Garmin, Oura Ring, j'ai une Whoop quelque part. Donc je traque beaucoup de données. Mais quand je faisais beaucoup de sport, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui, est-ce que je suis en bonne santé ? On peut noter par rapport à qui, par rapport à mon poids, mon âge, à mon fitness, etc. C'est quoi une santé optimale ? C'est quoi des chiffres optimaux en termes de resting heart rate quand je dors, etc. Et j'avais pas une bonne compréhension de ça. Mais je voyais qu'on avait toutes ces données et on voyait en finance ce qu'on fait avec toutes les données. Je voyais cette énorme opportunité qu'il y avait dans les données chez les athlètes en particulier, parce qu'on traque tout le temps et ça nous permet de nous améliorer si on peut comprendre les données. Et donc j'ai commencé avec ça, et après de là j'ai vu qu'il y avait cette énorme gap dans les données de la femme. Donc on comprend rien en fait aux données de la femme. Donc je te donne un exemple. Ma O-ring, donc c'est un wearable, il prend ma température du corps tous les jours.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que comme un podcast est en audio, nous on a la vidéo, mais en fait c'est une bague et qui permet de traquer un bon nombre d'informations, notamment je crois la qualité du sommeil.
Donc ça traque resting heart rate, donc le battement cardiaque à la nuit, heart rate variability, tes mouvements pendant la nuit et ce qu'ils représentent, donc deep sleep, REM sleep, light, etc. Température du corps, activité, d'ailleurs que la Garmin plus ou moins traque aussi. Mais la Oura Ring est très spécialisée pour le sommeil, effectivement. Et donc ça traque ma température du corps, par exemple. Et si jamais ma température du corps monte, l'algorithme pense que que je suis malade, ce qui est vrai si j'étais un homme. Mais en tant que femme, je peux être juste en train d'ovuler, ce qui m'arrive chaque mois. Je peux être enceinte, je peux avoir des signes de périménopause avec des bouffées de chaleur, etc. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles mes métriques de base changent sans que ça veuille dire du tout que je suis malade. Donc la température du corps, le resting heart rate, heart variability, tous les métriques en fait changent chez la femme. Et donc, je trouve ça assez incroyable quand on n'analyse pas ça du tout. Donc, c'est ce qu'on fait.
Génial.
Donc, c'est ce que vous faites. Et qu'est-ce que vous en fait, de toute cette analyse? Est-ce qu'après, vous revenez justement vers les fabricants, que ce soit Waring, que ce soit Garmin, Polar, Coros ou d'autres marques? Ou est-ce que vous gardez ça, vous, de votre côté? Qu'est-ce que vous en faites, en fait?
On parle avec tous ces wearables. Ils essayent d'aller un peu dans le milieu de la femme et de dire qu'ils font des choses pour la femme. Mais par exemple, Garmin, maintenant, tu peux juste entrer tes règles, donc si tu as tes règles ou pas. Mais les règles, c'est juste une partie infime du cycle menstruel de la femme. Donc, en ovule, c'est pratiquement un des moments les plus intéressants du cycle menstruel de la femme, parce que c'est là où ton corps est le plus apte à faire les entraînements les plus durs. Mais ce que le corps de la femme en termes de nutrition a besoin est aussi très différent.
Et à l'inverse, quand tu as tes règles, c'est le moment où justement il faut peut-être laisser un petit peu l'entraînement de côté.
Non, c'est avant les règles en fait. La majorité des femmes ont des symptômes prémenstruels plus ou moins forts. Mais même si elles n'ont pas des symptômes forts, elles peuvent avoir le resting heart rate sera plus élevé par exemple. Et c'est le moment, en fait, on a dans notre corps de peak performance et de recovery pour récupérer, très similaire à un athlète. Donc quand t'es un athlète, tu t'entraînes pour peak à une course et après tu vas sur une période de récupération et après tu retournes sur le... Et nous on a ça chaque mois. Donc si on comprend ça, on peut aller avec le corps et vraiment ça, de cycle en cycle améliorer notre performance sportive, parce qu'on va avec le corps. On n'est pas en train de pousser quand le corps devrait être en train de récupérer, et à l'inverse, quand le corps est extrêmement fort et extrêmement puissant, c'est là où tu peux faire tes sessions d'intensité forte. Et donc comprendre ça, ça te permet d'être meilleur en tant qu'athlète et de vraiment voir des résultats, et aussi avoir tout ce qui est symptômes négatifs de la femme traditionnelle, de les limiter. Et de réduire.
Est-ce que c'est quelque chose que tu peux aussi, si tu es à l'écoute de ton corps d'une certaine manière, est-ce qu'il y a des femmes athlètes qui sont capables justement de se rendre compte de ces signaux-là? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est impossible à détecter par soi-même en tant que femme, et donc il faut obligatoirement avoir des wearables?
Non, c'est une très bonne question. Donc, là, ce qu'on fait, c'est un, on fait de la recherche, deux, on traque tes données par les wearables, mais aussi des données manuelles. Comment est-ce que tu te sens, okay. Comment était ton entraînement, ton stamina, ton envie de t'entraîner, etc. Parce que toutes ces données subjectives, elles te permettent de comprendre aussi en termes de tracking, en termes de ce que tu sentais dans ton corps. Le tracking, ça te permet d'avoir un historique de ces choses-là. Et ensuite, on peut faire des corrélations entre là où tu es dans ton cycle menstruel et comment est-ce que tu te sens, etc. Et c'est là où les femmes apprennent aussi ce que ça veut dire. Et à partir de là, nous, dans l'app aussi, on donne des recommandations spécifiques, comment s'entraîner, comment se nourrir et comment se récupérer. Et quand les femmes lisent ce qu'il y a dans l'app, ça a énormément de sens pour elles. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est des choses qui sont pas connues, mais c'est des choses qui sont très naturelles pour les femmes quand elles entendent ça pour la première fois. Donc il y a énormément d'éducation à faire et de sensibilisation à faire sur le fait que avoir des douleurs, c'est pas du tout quelque chose qu'une femme ou un homme devrait avoir. Si t'as des douleurs, c'est pas normal. Et si on se sent pas bien, etc., c'est pas quelque chose de normal. Mais les femmes ont appris depuis qu'elles sont adolescentes, si elles ont des douleurs menstruelles, etc., que ça n'existe pas vraiment, et qu'elles ont qu'à deal with it, et de continuer. Mais en fait, on a certains besoins. Par exemple, quand on a nos règles, on a besoin de fer. Quand on ovule, on a besoin de graisse. Après l'ovulation, on a une fenêtre de 45 minutes pour prendre des protéines, alors qu'un homme a une fenêtre de 24 heures pour récupérer. Et si t'as pas ça, le corps a des carences et donc performe moins bien et on se sent pas bien, on a des douleurs, etc. Mais si tu suis le protocole, ça fait des miracles.
Alors justement, tu parles de suivre le protocole, tu parles de traquer tout ça, tu parles de l'app YDI que tu as développée. Comment est-ce qu'une femme qui nous écoute et qui serait intéressée par faire évoluer un petit peu tout ça, par être encore plus à l'écoute de son corps, peut utiliser votre application? Est-ce qu'elle doit avoir des devices connectés? Comment est-ce qu'une femme peut mettre tout ça à profit?
Alors, on n'a pas besoin d'avoir un appareil connecté pour utiliser l'app. Tu peux utiliser l'application sans appareil connecté, mais si tu as une information plus riche, si tu as un appareil connecté. Donc, tu peux avoir une Apple Watch, une Garmin, on couvre toutes ces montres. Mais c'est juste une information plus riche. Donc, l'app est sur tous les App Store, qui s'appelle Wild AI, WILDAI.
C'est une app qui est gratuite de base avec des fonctionnalités avancées. Il y a une version payante, c'est
ouais,
ça?
Ouais, il y a des entraînements dans la version payante, etc. Et puis de l'autre côté aussi, si jamais tu travailles avec un coach, si tu travailles pas encore avec un coach, le coach peut avoir accès à ces informations. Et donc ça, c'est plus pour les coachs.
Tu disais, la majorité des recherches, et notamment dans le sport, elles sont faites sur les hommes et pas sur les femmes. Est-ce que dans le personnel qui gravite autour du sport, et notamment les différents entraîneurs, est-ce que tout le monde est au fait de ces différentes variations que peut connaître le corps de la femme, et comment améliorer un petit peu tous ces éléments-là?
Ouais, pas du tout. Donc là, tout ce qui est sur le... Quand t'écoutes encore aujourd'hui ce que beaucoup de coachs disent, etc. Normalement, enfin c'est normal pour si t'es athlétique, pour une femme et pour une jeune fille, de ne pas avoir ses règles, par exemple. Donc c'est, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est monnaie courante de perdre ses règles, et les coachs disent c'est tout à fait normal, c'est parce que tu fais beaucoup de sport, etc. C'est absolument pas normal. C'est fréquent et ça arrive, mais c'est pas normal, et c'est en tout cas très malsain. Et quand t'es athlétique, quand tu fais du sport, la première chose dont tu as besoin, c'est d'avoir un corps sain. Ne perdre sa règle, c'est un des premiers symptômes visibles du fait que tu as un mauvais équilibre interne. Et donc, on a une très mauvaise compréhension encore aujourd'hui de ce que ça veut dire de s'entraîner en tant que femme. Parce que la raison pour laquelle les femmes perdent leurs règles, ça s'appelle l'aménorrhée, c'est parce qu'elles ont des déficiences nutritionnelles. Donc quand t'es anorexique, t'as pas assez de nourriture, donc t'as des carences nutritionnelles, évidemment. Si tu fais beaucoup de sport et que tu ne donnes pas la bonne nutrition au bon moment, t'as aussi des carences nutritionnelles. Et donc du coup, les femmes, dans les sports à tout niveau, que ce soit les olympiennes jusqu'à juste les femmes qui s'entraînent au quotidien, le côté... La façon dont how they look like, leur physionomie est très importante. Donc elles se jugent énormément, elles veulent pas être avoir trop de muscles, etc. Et dans le sport, elles sont extrêmement jugées. Donc vous avez dû entendre, il y a plein de coachs qui disent à leurs athlètes qu'elles sont trop grosses, etc. Et donc il y a des vrais problèmes nutritionnels. Non seulement elles n'ont pas juste les bonnes nutritions de base, mais aussi il y a des problèmes plus avancés de sous-nutrition et malnutrition. Un des premiers impacts, c'est perdre les règles. Mais là, ce qui est lié à ça, c'est que la densité osseuse descend. Donc similaire à quand une femme touche la ménopause, elles ont une ostéoporose, Donc là, c'est pour ça que nos grands-mères tombent dans la baignoire et cassent leurs hanches, parce qu'on a de l'ostéoporose, et quand on perd nos règles, on a ça aussi. Et donc, si t'es une athlète, tu perds tes règles et tu peux te casser tes os, et t'es beaucoup plus sensible à tout ce qui est blessure, etc. Donc c'est extrêmement malsain. Mais c'est pas du tout connu. Donc il y a plus de sensibilité qui est faite, etc. Mais pour les coachs et pour les athlètes, c'est plus simple de suivre des protocoles qui sont faits pour des hommes. Donc il y a plein de choses qui sont vraies pour des hommes qui ne sont pas vraies pour des femmes. Donc si tu es un peu plus fit et lean pour un homme, tu vas peut-être courir plus vite. Mais en tant que femme, tu vas peut-être courir plus vite dans le court terme, dans le moyen long terme. Tu pourras plus courir parce que t'as des fractures de fatigue, des choses comme ça.
Je pense que dans le milieu du triathlon, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. En général, on est plutôt sur deux tiers, un tiers. Si tu regardes typiquement une ligne de départ, je sais pas, sur un Ironman, c'est un petit peu les statistiques. Au niveau des coachs, c'est vrai que bah, du coup, on a souvent tendance à voir des coachs plutôt masculins, même s'il y a des coachs femmes aussi, évidemment. Toi, tu recommandes plutôt d'avoir une femme coach en tant que femme pour te coacher toi-même ?
Non, je pense que les hommes sont aussi très bien, mais le problème c'est que...
Non, mais je veux dire, ils n'ont peut-être pas cette sensibilité, cette compréhension.
Les femmes non plus, c'est plus un...
C'est vraiment un état d'esprit, et je pense que ça vient aussi de la formation. Ça fait très peu de temps qu'on s'intéresse à ces, entre guillemets, encore une fois, entre guillemets, problèmes de la femme. On le sait, notamment sur le marathon, les femmes ont été autorisées à courir uniquement en 1963, parce qu'avant, on disait que le corps de la femme était trop faible, ce qui est, à mon sens, une hérésie, mais eu égard à tout l'historique qu'on a pour les hommes sur les courses de longue distance. Donc, je pense que c'est aussi un problème d'éducation, de formation de ces coachs, que ce soit les hommes ou les femmes.
Exactement. Donc, et je pense qu'il y a vraiment ce problème grassroots, comment est-ce qu'on éduque les gens sur le corps de la femme, etc. Et le fait, même toute la recherche médicale est basée sur des hommes, parce que c'est plus simple de faire, si tu fais par exemple un test, disons que tu veux lancer un nouveau supplément alimentaire, pack ou n'importe quoi, et que tu testes sur un homme dont les métriques ne changent pas, donc tu vois ta performance ne change pas, ton resting heart rate est constant, etc. C'est beaucoup plus facile de tester ça que sur une femme dont déjà les métriques de base changent. Donc, comme c'est compliqué, les gens disent c'est pas grave, on va mettre les femmes de côté, on s'en fout, et on teste tout sur les hommes. Le problème, c'est que nous, en tant que femmes, on a des big life stages, donc en fonction de là où on est dans notre vie, notre corps est complètement différent. Une femme qui utilise un contraceptif hormonal est complètement différent d'une femme qui utilise un contraceptif non hormonal, par exemple le stérilet en cuir, c'est complètement différent d'une femme qui n'utilise pas de contraceptif, d'une femme qui vient d'avoir un enfant. Tout son processus hormonal, tout son corps, il y a un énorme reset. Une femme qui a 47 ans et qui est en périménopause, qui fait du triathlon, notre corps change tout le temps en fonction de l'âge qu'on a et de l'état où on est, et tous les jours pendant 40 ans quand on a un cycle menstruel, il change tous les jours aussi. Alors, quand t'es data scientist, c'est très intéressant, mais du coup c'est beaucoup plus complexe, et donc ils ont dit au lieu de regarder à tout ça, on va juste prendre les hommes.
À quel moment tu t'es dit en fait c'est un vrai sujet, j'ai envie de créer une app pour ça?
C'était évolutif. Au tout début, la boîte, c'était pour les hommes et les femmes. Et donc, couper les hommes de la boîte, c'était une décision assez difficile. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, on me disait « Mais tu vas perdre la moitié de la population. » Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. L'autre moitié de la population n'a jamais été servie. Tout ce qui est sur le marché aujourd'hui, c'est pour les hommes. Tout. Donc, les wearables, c'est fait pour les hommes. Et après, c'est adapté aux femmes. Par exemple, ma montre, c'est une Garmin Fenix 5S. C'est S parce que c'est small, donc elle est plus petite. Elle coûte le même prix qu'une Garmin normale, mais l'écran est un peu plus petit pour mon poignet. Comme tu peux voir, elle reste très grande pour mon poignet. Elle a moins de batterie, mais elle coûte le même prix. Donc j'ai un produit moins bien, mais ils l'ont adapté un peu pour les filles. Quand tu regardes les vélos, les vélos, ils sont tous, si tu veux avoir un vélo adapté pour une femme, donc le cadran est un peu et a une forme différente, etc. Ils sont tous roses ou violets, etc. Mais c'est de nouveau, au lieu de prendre la femme, la physiologie de la femme, et comment est-ce qu'on peut partir de là et créer un produit pour elle, on a créé un produit pour l'homme, et puis après on a fait un petit peu plus petit, un petit peu rose, et après les femmes peuvent l'utiliser si elles ont envie. Et donc il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour partir de la femme. Et en voyant ça, c'est une énorme opportunité en fait. Et c'est pour ça que ça résonne énormément avec les femmes avec qui on travaille, parce qu'elles ont l'impression que personne ne les a jamais vraiment regardées, écoutées. Et donc dans le marché, on est les leaders dans ce qu'on fait, parce que parce que les autres sont intéressés aux hommes. Ou à tout le monde. Mais quand t'es intéressé par tout le monde, en fait, ce qu'il dit, c'est les hommes.
Bon, et donc, du coup, c'était quoi l'idée de base? C'était je veux créer une app qui va faire quoi, en fait, exactement? C'était quoi l'idée de l'application à la base?
Tout au début, c'était une plateforme pour trouver des courses et s'entraîner. Et il y avait toujours un élément de, d'adaptation.
Aïe, sacré pivot.
On a enlevé le trouver une course, mais il y avait toujours le côté comment s'entraîner en fonction de tes données personnelles. Donc, il y avait toujours ce côté adaptif, évolutif et personnalisé de l'entraînement. Mmh. En fait, on voulait remplacer un coach humain en regardant tes données, etc. Et si, c'est comme si un coach humain regardait tes données chaque jour et te donnait des recommandations en fonction de ça. Pas vraiment, en fait, pas pour remplacer le coach, mais pour ce qu'une machine fait bien, c'est-à-dire lire des données.
Lire et analyser. Et...
ouais, et donner des recommandations, et après le coach décide.
Et là maintenant, ça fait combien de temps que l'app existe ?
L'app existe depuis un an. Donc elle est sur le marché depuis un an, mais la boîte existe depuis 4 ans et demi.
Et donc pendant les 3 premières années, c'était quoi ? C'était de la recherche et développement uniquement, ou bien vous aviez déjà monétisé ?
Non, recherche et développement.
Et là, vous avez combien de membres pour l'instant ? Enfin, combien de téléchargeurs ?
Là, on a 30 000.
Donc 30 000 membres avec un E majuscule à la fin, puisque ce sont censés être que des femmes, on est d'accord ?
Que des femmes.
et on parle de monétisation, du coup, votre business model tourne autour de quoi ? Parce que tu l'as dit, vous avez une application gratuite, une application premium. Dans les recommandations que vous faites, dont tu parlais tout à l'heure, aux autres marques, notamment les marques d'objets connectés, est-ce que c'est une prestation que vous apportez?
On parle avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. On prend leurs données, donc déjà on est intégré de ce côté-là, et après on verra comment ça se développe par la suite. Mais là, on regarde les différentes options qu'on a pour avoir plus de routes de monétisation et pour analyser lesquelles sont les plus optimales pour nous. Donc par exemple, là on lance un supplément. Donc dans l'app, on recommande des suppléments en fonction de ton cycle menstruel ou de tes symptômes. Et dans l'app, tu pourras directement cliquer et avoir ton pack personnalisé pour toi. Donc on lance des choses comme ça, on analyse quels sont les besoins de nos utilisatrices et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut lancer.
Tu disais, on est le leader du marché, il y a d'autres concurrents qui font la même chose ou bien orientés uniquement sur les femmes, vous êtes les seuls?
Il y a deux apps qui sont un peu pure competitors, qui sont aussi à cheval entre le sport et le cycle menstruel. Il y en a une qui s'appelle Jenny's App et l'autre qui s'appelle Fitter Woman. Mais la différence, c'est que ce sont des apps un peu comme si c'était un PDF dans l'app. Jenny's a des vidéos aussi qui sont pas mal. Mais il n'y a pas du tout la capacité d'intégration des données, des choses comme ça. Donc du coup, tu n'as pas ce côté personnalisé, adaptif et intégration des données. Donc ce que nous, on fait en particulier sur ce côté de données, de transférer tout ce qui est... traduire tout ce qui est données masculines en données féminines, on est les seuls à faire ça pour l'instant.
Même par rapport à l'homme, je sais pas, tu parlais par exemple d'analyser la variabilité cardiaque, bah, c'est un truc, tu l'as pas aujourd'hui dans la plupart des applications où il y a des outils pour ça.
Si tu utilises Whoop par exemple, ou Oura Ring, ils font pas mal de ces analyses. Par rapport à, par exemple, Garmin traque ces données, mais les analyse peut-être pas de cette façon-là.
Mais c'est ça. Je pense que tu peux avoir la data, mais elle t'est pas forcément... Ouais. Tu peux pas forcément la visualiser, ou en tout cas, t'as pas de takeaway suffisamment explicite et concret à appliquer. Quoi.
Si tu download l'app, t'es obligé de rentrer ton live stage, et donc il y a pas l'option d'être un homme sur l'app, mais on a des hommes qui l'utilisent, ouais. Et qui disent qu'ils sont en ménopause parce que c'est le stage le plus proche d'être un homme, parce que il y a tout ce qui est recommandations, etc., en fonction de ton entraînement, c'est assez unique et c'est très bien ce qu'on fait, mais on veut avoir le meilleur produit qu'on puisse pour les femmes, et après un jour, si les hommes peuvent l'utiliser, ils pourraient, mais pour l'instant, les femmes n'ont jamais vraiment été servies avec des produits de pointe, etc. Et c'est notre mission.
Vous avez quand même encore un beau marché devant vous. Je veux dire, à 30 000, c'est déjà une très belle communauté. Mais bon, il y en a 3 milliards, quoi.
Exactement.
On ne le dit pas assez souvent, mais les hommes aussi ont des cycles. Alors, c'est beaucoup moins visible que chez les femmes, mais ça arrive aussi. Bon, en tout cas, je comprends tout à fait l'intérêt de servir les femmes. Et peut-être la question qui tue, du coup, est-ce que toi-même, tu es une utilisatrice de l'app et qu'est-ce que ça a changé chez toi dans ta vie de sportive?
Alors, déjà, ça a changé ma perception de mon propre corps. J'ai toujours trouvé que c'était... un peu chiant d'être une femme en sport. Je trouvais que les hommes, ils sont plus rapides, plus forts, Et c'est un peu le holy grail, c'est d'être un homme dans le sport. Mais en fait, c'est pareil, il y a des femmes qui ont certains avantages. Par exemple, on est plus endurante sur la très longue distance. On met plus de temps à s'adapter dans les milieux extrêmes, mais on est plus adaptive. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Donc comprendre que c'est pas seulement des avantages d'être une femme, mais il y a aussi des avantages. Comprendre aussi la puissance de mon corps. Donc chaque mois, à partir de rien, mon corps peut créer un bébé. Tout est fait, tout se met en place autour de ça et le crée. Et il y a ce cycle aussi naturel qui fait ultra performance, recovery, ultra performance. Je sais pas, un des plus grands mystères qui existe, c'est la longévité. Genre, comment est-ce qu'on peut améliorer la longévité, etc. Je pense que les gens qui regardent tous ces questionnements, ils cherchent du mauvais côté. Ils devraient regarder à pourquoi est-ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Est-ce que c'est parce que justement, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on perd du sang chaque mois? Est-ce que c'est parce que on a dans notre corps cette espèce de cycle de puissance recovery qu'on est obligé de prendre un peu soin de ça? Je sais pas quelles sont les raisons pour l'instant. Mais donc, pour moi aussi, apprendre d'écouter mon corps et d'aller avec mon corps plutôt qu'à l'encontre, ce que je faisais avant. Je trouvais ça très ennuyant et très chiant d'avoir des douleurs menstruelles, etc. Je trouvais ça très chiant. Mais en fait, maintenant, je sais que c'est une énorme puissance si jamais je le comprends. Et donc, ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et ensuite, maintenant que je suis les protocoles nutritionnels et d'entraînement, etc., ma performance s'améliore. Et aussi, je ne suis pas dans l'obscurité totale. C'est-à-dire qu'un jour, si je performe hyper bien, l'autre jour, je performe moins bien, ça a été prédit par l'app. Et donc, si jamais je vais avoir un jour optimal, je vais essayer d'avoir une session plus longue ou une session plus dure, des choses comme ça. Et donc, au lieu d'opérer complètement dans l'obscurité, j'ai plus de visibilité sur ce qui va se passer sur mon corps et comment est-ce que je peux mieux me préparer et comment appréhender les choses aussi.
T'as pas peur de ce fameux biais de confirmation qui tendrait à dire l'app te prévient que dans 2 jours, tu seras moins bien et 2 jours après, tu vas t'entraîner. Effectivement, j'étais pas si bien que ça, l'app avait raison.
Ah, c'est une très bonne question. Alors, tout ce qu'on dit dans l'app, c'est positif. À le contre de ça, parce que la dernière chose que tu veux quand t'as ta course, si t'es amateur, mais aussi si t'es professionnel, que t'ouvres l'app et qu'on te dise aujourd'hui it's gonna be a really bad day, genre va, t'entraînes pas. Donc on dit jamais ça en fait. Chaque jour est positif pour une femme. Chaque jour a un optimal, mais c'est comme quand tu t'entraînes. Quand tu t'entraînes, chaque jour construit jusqu'à ce jour qui est une course ou qui est un événement, etc. Et en tant que femme, c'est juste que c'est la même chose. Donc tu peux avoir une course ou tu peux avoir un événement de peak performance à n'importe quel jour de ton cycle menstruel. Mais la raison pour le fait que tu construis au fur et à mesure, et cycle après cycle, te rend plus forte en tant qu'athlète. Donc c'est cette temporisation qui est très importante. Mais on dit jamais que dans 2 jours, tu te sentiras moins bien. On dit dans 2 jours, focus on more stability. C'est là où tu dois focus plus pour tirer le plus profit de ton corps ce jour-là. Mais si tu veux faire autre chose, tu peux faire tout à fait autre chose. Parce que ton corps est plus prêt aussi.
Enfin, c'est un sujet qu'on avait abordé avec Juliana, justement, Antero, dans un épisode précédent. Mettons que tu sois athlète de haut niveau, tu as les Jeux Olympiques qui arrivent. Tes menstruations, t'as pas trop le choix de te dire non, en fait, les JO, je vais les faire plus tard, quoi, tu vois. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ça? Il faut décaler? Est-ce que c'est bien de décaler? Faut éviter? Enfin,
c'est juste différent. Donc, chaque jour a des avantages, des inconvénients.
Et je veux dire, si le jour J, c'est justement le moment où il faut pas dans le mois.
Non, il n'y a pas de il faut pas, tu peux faire ce que tu veux.
Non, mais je veux dire, il y a des jours où tu as quand même une plus grande probabilité d'être plus performante.
Pour différentes choses. Donc, par exemple, avant les règles, donc c'est la période où beaucoup de femmes se sentiront moins bien, auront moins envie de faire des courses longues ou de faire des efforts de haute intensité, etc. Si jamais tu suis les protocoles et si jamais tu prends la nutrition correcte, etc., tous ces symptômes négatifs, ils disparaissent au fur et à mesure du temps. Il y a des femmes qui, pendant 40 ans, elles ont des énormes douleurs menstruelles, c'est très difficile. Mais t'as pas besoin d'avoir ça. Quand une douleur, c'est pas supposé exister pour n'importe qui, pour une femme ou pour un homme. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est si jamais ça arrive ce jour-là, au total, t'es plus performante. Si c'était quelques jours plus tard, Et juste avant les règles aussi, c'est un moment où on est plus en tune avec nous-mêmes, etc. Mais c'est aussi un moment où il y a d'autres avantages. On a une plus grande capacité d'être focus sur tout ce qui est stabilité, etc. Donc, et dans n'importe quel sport, c'est intéressant ce genre de choses. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas performer. Et donc ça, c'est ce mindset, il est très important à shifter aussi, parce que c'est, sur ce que tu disais, Hermano, est-ce que ça ce biais négatif confirmé, mais c'est pas ça. C'est toujours tirer le plus profit au fur et à mesure et devenir une meilleure athlète au fur et à mesure du temps.
On n'est jamais censé ressentir de douleur, c'est pas quelque chose qui est normal, mais si la femme a des douleurs justement, c'est dû à quoi et qu'est-ce qu'elle doit faire?
C'est souvent dû à des insuffisances et instabilités. Donc si par exemple si t'as des règles et que t'as besoin de faire et que tu donnes pas de faire à ton corps, il a besoin de faire. Donc tu te sens un peu fatigué, sans force, etc. Si tu sais pas que tu as besoin de faire, tu peux pas prendre de faire. Si jamais tu fais un entraînement sportif, surtout de la seconde partie du cycle, et que tu prends pas de protéines ou que tu prends des protéines 2 heures après ton entraînement sportif, tes muscles sont pas replenished entièrement et ils ont pas ce ressourcement qui vient des protéines. Ouais. Un homme, si tu prends pas de protéines après, tu peux sentir un peu la différence, tu peux avoir plus de crampes, plus de choses, etc. Donc si jamais tu comprends ce que son corps a besoin, tu peux lui fournir les bonnes choses. Okay. Donc aussi, je me suis peut-être pas exprimé de la bonne façon. Avoir des douleurs, c'est normal, mais ça devrait pas être quelque chose de permanent. Et ça devient des problèmes de chronic health qui sont là pendant des années, et ça c'est pas normal. En tant que femme aussi, si tu penses à une femme comme un athlète, en fait, quand t'as un athlète, tu piques, tu vois, si tu par exemple tu vas faire un sommet de montagne, tu vas t'entraîner, tu vas piquer, tu vas atterrir au sommet, et après tu redescends, t'es fatigué, etc. Mais si jamais dans ton entraînement t'as 3 sommets à faire, tu peux aussi faire 3 sommets. Genre ça arrive, tu vois. Et donc en tant que femme, c'est la même chose. Si jamais tu piques, si tu dois faire quelque chose après, tu peux aussi le faire. Ça doit juste faire partie de ton entraînement. Et en tant que femme, on a ça naturellement dans notre corps.
Ok. Et typiquement, je sais pas, un manque de fer, par exemple. Enfin, faut faire une prise de sang, quoi. Je veux dire, t'as pas trop le choix là.
Ouais, mais avec tes symptômes, tu peux aussi détecter que t'es en manque de fer.
Bah après, je pense que c'est on ouvre aussi un peu une boîte de Pandore où il y a enfin, en fait, on sait encore très peu de choses sur le corps humain.
Ouais.
Et surtout sur le corps de la femme.
Et d'autant plus sur le corps de la femme, puisqu'effectivement, il y a eu moins de recherches. Ouais. Non, c'est clair, il y a encore énormément de choses à découvrir. Je fais une petite parenthèse. Tu parlais tout à l'heure avec cette fameuse bague intelligente qui permet de mesurer tes phases de sommeil. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, je doute de l'efficacité de ce genre d'outil parce que je me demande comment est-ce que tu fais, tu vois, pour mesurer les différentes phases de sommeil sans avoir des électrodes sur ton cerveau, quoi, en gros.
Alors moi, j'utilise ces wearables depuis assez longtemps et c'est très juste. Donc, je pense que c'est... Okay. Alors, les phases de sommeil, je ne sais pas, mais je sais que ça reflète assez bien comment je me sens. Et si je bois de l'alcool, par exemple, mes chiffres, mon resting heart rate, je suis à 68 si je bois de l'alcool, je suis à genre 52 si je suis genre normal, etc. Je vais jusqu'à 46-47 si je suis fit et je dors bien, etc. Mais je vais jamais au-dessus de 60 sauf si je bois de l'alcool. Et donc, tu vois des chiffres. Et après, tu commences à lire les données et en fonction de ce que tu ressens vraiment de ton corps, et ça a du sens. Après, les phases exactement de sommeil, quand t'es en deep sleep, quand t'es en REM sleep, REM, rapid eye movement, c'est supposé quand tu rêves. Physiologiquement, il y a des différences, donc ils peuvent traquer ça plus ou moins. Est-ce que c'est très exact, je sais pas, mais de nouveau, pour l'utilisation que moi j'en ai, c'est suffisant. J'ai pas une utilisation médicale de ces outils, j'ai une éducation plus well-being et sport. Après, si c'était médical, c'est pas des outils médicaux, c'est sûr.
Lucille Maffre, qu'on a reçue dans ce podcast, qui répondait à l'excellent podcast Let's Trail Podcast avec Nico, justement sur ce sujet-là du tracking du sommeil et des différentes phases de sommeil, et elle mettait aussi un petit peu dans la balance le fait que ces objets connectés sont assez bons pour détecter l'endormissement et le réveil. un peu moins pour les phases, mais après, ça reste une information plutôt statistique et effectivement à analyser dans un objectif de développement personnel plus que médical.
Et aussi, ce que moi je regarde, les phases de sommeil, je trouve ça intéressant, mais ça ne m'apporte pas plus que ça. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est resting heart rate, heart variability, combien de temps j'ai mis pour m'endormir. Ça, je trouve que c'est assez correct.
Tu parles justement du HRV, le Heart Rate Variability, donc la variabilité cardiaque. J'en ai parlé dans un autre podcast que je produis qui s'appelle Nakan, avec un cardiologue spécialiste justement du sujet. Est-ce que tu trouves que ces outils-là mesurent bien cette variabilité cardiaque? Parce que nous, la recommandation qu'on avait eue, c'était plutôt d'utiliser la ceinture pectorale et une app qui va bien avec, plutôt que des objets connectés qui ont une mesure parfois un petit peu aléatoire.
De nouveau, je pense que ça dépend du chiffre que tu as envie d'avoir. En même temps, j'utilise Whoop et Oura, ils ont des chiffres différents. Donc le chiffre exact, il est différent, mais la variabilité, elle est similaire.
Oui, la tendance, si tu regardes une tendance sur plusieurs jours, tu vas avoir cette tendance-là.
Ouais, exactement. Resting heart rate, je trouve que c'est assez accurate. De nouveau, le chiffre exact, je ne sais pas. Mais en tout cas, la variabilité, elle représente vraiment très bien comment est-ce que je dormis, si je bois de l'alcool, si je fais beaucoup de sport le soir, ou des choses comme ça. HRV, je ne sais pas. Après, si tu veux avoir des meilleurs résultats, un, c'est électrode, deux, c'est chest strap.
La ceinture pectorale.
Trois, c'est montre. Mais de nouveau, ça dépend, c'est ce que tu as envie de savoir. Ça dépend si tu veux, si t'as vraiment besoin d'un chiffre hyper exact ou pas. Chaque personne, c'est différent aussi. Donc ton HRV sera très différent de celui d'Olivier. Et optimal, c'est très différent, les variations sont très différentes. Donc c'est aussi d'un device à l'autre ou d'un tracker à l'autre. Ce sera différent aussi, mais c'est, de nouveau, ça dépend quel est l'objectif que tu as derrière.
Moi, pour raconter une petite anecdote, là, je suis en préparation d'un gros défi sportif et c'est vrai que je commence à traquer ma variabilité cardiaque avec la ceinture pectorale de Garmin que j'ai connectée à une app. Et les premières mesures que j'ai faites, j'ai partagé ça à mon coach et un médecin qui me suit et qui m'a dit, mais c'est n'importe quoi, ton HRV est complètement dans les choux, tu devrais être plutôt à 60 et là, à 70 et là, tu m'envoies un truc à 50, c'est pas possible, t'es en surentraînement, repose-toi. Bon, entre-temps, je me suis blessé, ça fait 15 jours que je me repose et mon HRV ne fait que de baisser. Donc, je suis pas certain que la tendance que l'on m'annonce soit si bonne.
Ouais, ça dépend aussi, le HRV devrait monter si ton corps est fit. Donc si tu peux pas t'entraîner aussi, ça peut impacter négativement ton HRV.
Pour revenir sur YDI, justement, quel est votre objectif à long terme? Parce que là, tu nous l'as dit, votre but, c'est de collecter des données, les analyser, les rendre dans l'app, c'est-à-dire redonner un peu le pouvoir aux utilisatrices pour avoir des plans d'entraînement, pour suivre leurs données. Mais à long terme, quelle est votre vision, quel est votre objectif?
C'est d'être la référence dans le monde pour les femmes en termes de data et de tech. Si nous, on nous appelle femtech, c'est que par opposition, les autres devraient être appelés men-tech, pas tech. Et donc nous, on veut de la référence globale en technologie et données pour les femmes.
Par rapport au corps et par rapport au sport, toujours dans ce domaine-là, ou bien tu parles de manière plus large?
Wellness et sport, ouais.
Aujourd'hui, ton rôle en tant que CEO, c'est quoi? Ça représente quoi au quotidien? C'est quoi vos activités?
Enfin, elle nous l'a dit au quotidien, elle va surfer déjà.
J'essaie de surfer.
Ouais, mais... Je doute qu'elle sorte toute la journée quand même.
Non. Donc, on est une boîte remote et distribuée depuis avant Covid. Parce qu'on a embauché des gens. Par exemple, on a embauché une personne en Nouvelle-Zélande qui est la référence mondiale dans notre secteur en recherche, qui est vraiment la pionnière dans la recherche. Donc, ensuite, on a embauché un autre coach qui est en Nouvelle-Zélande. Ensuite, on a embauché des gens au Canada, aux États-Unis, Allemagne. Angleterre, etc. Donc on est distribué remote et donc de la façon dont on travaille, tous les gens qui sont dans la boîte sont très indépendants dans ce qu'ils font et gèrent leur propre stream de travail parce qu'on était distribué avant la pandémie. Donc c'est important. Et mon rôle à moi, c'est admin, tout ce qui est administratif, management. Donc par exemple, maintenant on est en train de boucher des gens, qui sont les bonnes personnes, comment est-ce que on passe d'une boîte où on était tout petit à maintenant on a 15 personnes à full-time et part-time. Mais comment est-ce qu'on gère les différentes dynamiques, qui fit bien dans la boîte, quelle est la culture de la boîte, quelle est la culture des gens avec qui on veut travailler, etc. Fundraising, donc c'est moi qui fais ça. Et après, tout ce qui est projet, pas les projets à court terme, mais les projets à moyen et long terme. Donc tout ce qui est projet à court terme et tout ce qui est l'app, c'est l'équipe qui fait. Et tout ce qui est projet à plus moyen et long terme, c'est moi.
C'est quoi les projets à moyen et long terme, typiquement? C'est quoi? C'est d'autres apps? C'est d'autres services, d'autres fonctionnalités?
Par exemple, une des choses qui est en train de transitionner du projet à moyen terme à quelque chose qui est immédiat maintenant, c'est les suppléments. Donc, on intègre les suppléments dans l'app. Donc, ça, maintenant, ça se transfère de moi en train de négocier avec les différents fournisseurs de suppléments qui sont les personnes avec qui on avait vraiment envie de travailler, qui sont les plus crédibles dans le marché, etc. Comment est-ce que ça se transfère en termes de business? Et maintenant, j'ai transféré ça à l'équipe, un produit, qui maintenant met ça dans l'app. Donc, c'est un bouton avec un... Tu cliques dessus, tu vas au checkout et tu payes. Donc ça, par exemple, c'était un projet plus long terme parce que c'est une question de monétisation, quelles sont les prochaines étapes pour nous, etc. On a un grand rôle aussi d'éducation, donc c'est un peu ce dont on parlait plus tôt. Donc, comment est-ce qu'on peut créer tout ce content éducationnel? Comment est-ce qu'on peut avoir des cours pour les coachs, pour les nutritionnistes et aussi plus tard pour les docteurs? Si tu travailles avec des femmes dans le secteur médical, si tu regardes n'importe quel secteur, gastro-entérologue, n'importe quoi, le corps de la femme réagit différemment du corps de l'homme. Donc on réagit aux nutritions de façon différente dans notre cycle menstruel, en fonction de si on est en ménopause ou pas, etc. Donc tout ce qui est médical également devrait être médical spécialisé pour les femmes aussi. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir à changer ça? Comment est-ce qu'on peut réfléchir aussi à travailler avec les régulateurs, par exemple, pour que ce soit obligatoire, si jamais tu veux tester des choses, par exemple dans le pharma ou n'importe quel secteur, que ce soit obligatoire de tester sur les femmes aussi, et pas que sur les hommes. Donc ça, c'est plus lobby politique. Ouais.
Tout ça au sein de la même structure, quoi. Ouais. C'est Wild AI qui est sur tous les différents tableaux. Ouais. Excellent.
J'ai encore deux questions quand même, juste avant de te laisser partir. La première, parce que tu es triathlète et parce que ce podcast s'appelle Devenir triathlète, c'est la question que je pose à tous nos invités. Selon toi, quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un pour devenir triathlète?
Je pense que c'est de le faire. Mais c'est aussi de ne pas trop se prendre la tête. C'est louer un petit vélo de merde et acheter des baskets et avoir des lunettes pour aller nager et puis c'est tout. Mais je pense que c'est une fois qu'on commence à faire les courses, je pense que c'est très très spécial de faire une course. Il y a un environnement, il y a un engouement, une adrénaline qui est très spécifique aux courses, et je pense que ça devient de plus en plus populaire de faire de courir, donc tout ce qui est course courte, 5K, 10K, marathon, etc. Mais le triathlon, c'est assez différent parce que c'est un esprit assez... Un, c'est varié. Deux, on est dans l'eau, puis on est sur la route, puis on est... C'est assez marrant. Et c'est très spécial, donc de pas trop regarder à tout ce qui est technique, etc. Moi, j'ai commencé en ultra trail. J'avais même pas de montre le premier 100 km que j'ai fait. J'ai aucune idée de ma vitesse, etc. Quand j'étais au ravitaillement, je demandais un peu quel est mon temps. Et... C'est pas très grave. Donc ouais, juste commencer, louer un petit vélo, puis voilà.
Un peu à l'américaine, le slogan de Nike, quoi. Just do it.
Exactement.
Et puis la dernière question, juste avant de te laisser partir, si on veut continuer à échanger avec toi, si on veut en savoir plus sur Wild AI, quel est le meilleur moyen pour retrouver toutes les informations?
On est sur Instagram, Wild AI App, sur les App Store, le site internet c'est wild.ai, et mon email c'est Hélène@wild.ai.
Merci beaucoup Hélène pour ton temps, c'était top, et puis on va suivre tout ça de très près.
Super, merci beaucoup de m'avoir eu sur le podcast.
Salut, bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.